Voilà, bonjour à tous, à toutes et à tous. Et la dernière fois que j'ai prêché, j'ai parlé sur le pain dans l'institution de la Sainte-Seine, j'ai parlé sur l'institution du pain, du symbole du pain, et j'avais dit que dans une prédication ultérieure, je parlerai du symbole du vin ou du jus de raisin, et donc je vais faire ça aujourd'hui. Rappelez-vous le passage que nous avions pris comme référence clé. Il y a plusieurs, bien sûr, dans le Nouveau Testament qui parlent de ça. Mais c'était Matthieu 26, verset 26. Et là, on va considérer Matthieu 26, verset 27. Donc, Matthieu 26, 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez. » Ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Le sang de Jésus qui a coulé sur la croix, eh bien, on le comprend très facilement. C'est le sang qui permet l'expiation des péchés, n'est-ce pas? Dans l'Ancien Testament, vous le savez, les enfants d'Israël devaient offrir des sacrifices pour le péché. Et ça voulait dire qu'il fallait qu'un animal meure, parce qu'un animal était innocent, il n'avait pas péché, mais il devait mourir à la place de la personne qui avait péché. Et c'était ce sang qui couvrait, qui effaçait la faute, qui effaçait le péché, et qui permettait à l'homme ou la femme de partir libre. Et au fond, en tant qu'être humain, nous avons tous cette conscience du péché, n'est-ce pas ? Nous avons tous au fond de nous quelque chose qui nous travaille. Nous avons tous quelque chose qui nous tourmente. Pour certains, c'est vraiment de l'ordre du tourment. Et on aimerait bien que ce soit une affaire réglée, n'est-ce pas? Combien de gens disent « Si seulement je n'avais pas fait ceci ou cela. Si seulement il y a 20 ans, il y a 30 ans ou il y a 10 ans, je n'avais pas fait ça. J'aurais été libre. » Mais voilà que on ne peut pas revenir sur l'histoire. On ne peut pas refaire l'histoire des gens. On est obligé de trouver une autre solution pour ça. Et la solution que Dieu avait trouvée pour le peuple d'Israël, c'était le sacrifice et le sang qui était versé. Vous savez aussi que dans le Nouveau Testament, c'est clairement dit, c'est clairement écrit dans l'Épître aux Hébreux, que Jésus est venu comme souverain sacrificateur et il a offert non pas le sang d'un animal, comme les souverains sacrificateurs pouvaient faire ou devaient faire dans l'Ancien Testament, mais il a offert son propre sang une fois pour toutes. Il a offert ce sang devant Dieu, il nous est dit, vous lirez ça dans Hébreux 9, 10, on va probablement regarder ces passages tout à l'heure, mais il est dit qu'il s'est présenté dans le ciel même. Il n'est pas rentré comme dans le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament, rentré dans le tabernacle ou dans le temple, qui était une représentation des choses célestes, prescrites, des représentations prescrites par Dieu. Mais il est rentré dans le ciel même, il s'est présenté devant Dieu en disant « Voici mon sang, le sang de l'Alliance ». C'est ce qu'il a dit à ses disciples, c'est ce qu'il dit à tous « Voici mon sang, le sang de l'Alliance ». Et c'était une fois pour toutes. Et ce sang nous permet d'être justifié, d'être pardonné, d'être purifié. Ça nous permet de pouvoir régler ces choses que nous avons pu faire dans le passé. Mais j'aimerais aller plus loin que ça, parce que c'est la conception traditionnelle qui est tout à fait juste, que l'on reçoit dans les églises évangéliques traditionnellement, que le sang de Jésus efface nos péchés. Que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, ce qui est biblique, c'est dit, on va lire ce verset tout à l'heure. Et l'expérience parfois de certains chrétiens, c'est de faire finalement comme dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire à chaque fois qu'ils ont péché, ils reviennent vers Dieu dans la prière et ils disent « Seigneur, efface mon péché par ton sang. Lave-moi de mon péché. » Et ils n'offrent pas de sacrifice parce qu'ils savent que c'est fini cela. Mais en fait, ils viennent devant Dieu et ils font le même type de procédure que dans l'Ancien Testament. Parce qu'ils À chaque fois, ils refont appel au sacrifice de Jésus, à chaque fois. Et c'est toujours pour le même problème. C'est toujours pour le même type de péché, de souci dans la vie. Et je crois que l'Évangile va plus loin que ça. Et que lorsque Jésus a dit à ses disciples « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance », il voulait dire quelque chose qui veut dire cela, effectivement, que Jésus purifie le péché par son sang, par sa mort. Mais il voulait aussi, je pense, pointer vers une autre dimension. Et j'aimerais qu'on regarde ça ensemble. Et il y a un verset que vous trouvez dans 1 Jean, la première épître de Jean, pas l'évangile de Jean, mais la première épître de Jean, c'est un peu avant l'Apocalypse, c'est vers la fin de la Bible, et je pense que les enfants l'ont appris au club du mercredi cette année, puisqu'ils l'ont récité, je pense, c'était celui-là la semaine dernière, ou il y a 15 jours. C'est donc 1 Jean, chapitre 1, et verset 8, non. Pardon. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est cette fin enfin, tout est extraordinaire dans ce verset, mais la fin de ce verset est extraordinaire, n'est-ce pas? Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de toute iniquité. On peut venir, effectivement, avec une conscience souillée, ayant fait les pires atrocités, et venir devant Dieu et demander « Seigneur, pardonne-moi ». Ce sont souvent ceux qui font les pires atrocités, qui ont conscience de la réalité de la puissance du péché et qui viennent donc par conséquent demander la purification de Dieu, la purification de Jésus-Christ. C'est vrai, mais remarquez que dans ce verset, il n'est pas dit « Si vous avez péché, le sang de Jésus-Christ, son Fils, vous purifie de tout péché ». Il est dit, au verset 7 qu'on vient de lire, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie. » C'est-à-dire ici, ce verset ne fait pas, semble-t-il, référence à ceux qui ont péché. Ce verset semble s'adresser à ceux qui marchent dans la lumière. Et il est dit que si nous marchons dans la lumière avec Dieu, comme il est lui-même dans la lumière, comme il est lui-même la lumière, et si nous sommes en communion les uns avec les autres, sachez que ce sont deux conditions qui sont requises pour prendre la Sainte Cène. Eh bien, le sang de Jésus nous purifie à ce moment-là. Et moi, je suis resté souvent, pendant des années, pensant que ce verset s'adressait à ceux qui avaient péché. Ça s'adresse à ceux qui ont péché, bien sûr, parce qu'on a tous péché. Mais ici, c'est spécifiquement adressé à ceux qui marchent dans la lumière. Ça veut dire que le sang de Jésus n'a pas seulement pour fonction de laver le péché de ceux qui viennent de pécher. Ça, cette fonction-là aussi. Mais ce n'est pas la seule fonction. Il y a une autre dimension de la puissance du sang de Jésus qui doit être saisie ici et qui est clairement écrite. C'est que lorsque nous marchons avec Dieu, en communion avec Dieu et en communion les uns avec les autres, il y a le sang de Jésus-Christ qui traverse notre corps, notre vie, notre esprit. Et c'est sur ce point-là que je veux insister ce matin. Et pour ça, je vais prendre quelques pages avant dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10. Lisez Hébreux 9 et 10 chez vous. Ça vous resitue le contexte du sacrifice de Jésus sur la croix. Et dans Hébreux 10, au verset 19, il est dit « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sous la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Mais c'est surtout les versets 19 et 20. et on va regarder mot, phrase par phrase ou section de ces versets par section. Puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, donc le sang de Jésus est nécessaire pour comprendre ce qui va suivre ou pour obtenir ce qui va suivre. Le sang de Jésus est nécessaire. La mort de Jésus sur la croix, c'est le moyen par lequel on peut accéder à ce qui va suivre dans le verset. Nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route vivante, nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, au travers de sa chair. C'est-à-dire que au travers de son corps qui a été déchiré, comme le voile a été déchiré, au travers de son corps déchiré sur la croix, qui est symbolisé par le pain que Jésus a rompu et a distribué à ses disciples, eh bien, nous avons une route nouvelle qui est au travers de ce voile, au travers de cette chair, au travers de ce corps. Jésus a dit « Je suis le chemin ». C'est cette route nouvelle qu'il faut suivre et qu'il faut comprendre et connaître, qui nous permet, selon ce verset, de passer au travers de ce voile pour rentrer dans la présence de Dieu. Alors, il est important de comprendre ce que ça veut dire historiquement. Vous savez, vous le lisez d'ailleurs dans Hébreux 9 comme un rappel, dans le temple, dans le tabernacle, il y avait le lieu saint qui était séparé du lieu très saint par le voile, par un voile. Et dans le lieu très saint, il y avait la présence de Dieu. Et personne ne pouvait rentrer dans le lieu très saint. Personne n'avait le droit, sauf une fois par an le souverain sacrificateur, qui devait rentrer avec du sang d'animal pour son propre péché, parce qu'il était pécheur, et pour le péché du peuple. Et c'était terriblement difficile pour ce souverain sacrificateur. C'était un moment redoutable pour lui, parce qu'il savait que s'il avait désobéi en quoi que ce soit, s'il n'était pas purifié dans son corps, dans son âme et dans son esprit, s'il avait oublié quelque chose, il savait qu'il ne pouvait pas tenir dans la présence de Dieu. C'est quelque chose que l'on a perdu totalement dans les églises. La conscience de ce que ça veut dire que de s'approcher de Dieu. Et parce que nous avons eu une voie nouvelle, une route nouvelle qui a été inaugurée par Christ et nous avons un libre accès auprès de Dieu, eh bien nous pensons que nous pouvons aller les mains dans les poches et nous tenir devant Dieu comme cela. Ceux qui pensent ça n'ont jamais rencontré Dieu. Parce que si vous rencontrez Dieu, lorsque vous rencontrez Dieu, vous avez conscience de sa sainteté. Vous avez conscience de votre misère par contraste, n'est-ce pas? Lorsque vous avez du soleil qui rentre dans la maison, c'est là où vous voyez que tout votre nettoyage ne servait pas à grand-chose, en tout cas à enlever seulement un petit peu de la saleté et de la poussière. Mais c'est devant la présence de Dieu, il y a cette conscience de notre souillure, et je vous assure que le souverain sacrificateur savait ça. Il se sentait misérable, il se sentait souillé, et il devait tenir le sang du sacrifice en disant « pourvu que cela suffise pour moi et pour mon peuple ». Mais ce voile impénétrable qui séparait le peuple de Dieu, lorsque Jésus est mort sur la croix, vous rappelez cet événement. Au moment où il est mort sur la croix, le voile s'est déchiré de haut en bas. Ce n'est pas déchiré de bas en haut, de toute façon ce n'était pas le genre de voile qui pouvait être déchiré. Mais c'était ce miracle qui s'est passé, qui est un miracle véritable, mais aussi symbolique, que le voile qui est la chair ici, le corps de Christ, a été cloué sur la croix et mort. Eh bien, ça permettait d'inaugurer une route nouvelle. Ça permettait aux hommes et aux femmes de pouvoir prendre cette route qui leur permettait d'aller dans le lieu très saint. Ça permettait aux hommes et aux femmes, et ça nous permet aujourd'hui, de pouvoir nous approcher de Dieu, le cœur lavé, la conscience lavée. C'est ça la réalité de l'Évangile. C'est de pouvoir s'approcher de Dieu en disant « J'ai été lavé, j'ai été purifié, j'ai été sanctifié. Maintenant, je peux m'approcher de Dieu, non pas parce que je mérite, mais parce que la grâce de Dieu, parce que l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix est une œuvre puissante qui est encore efficace aujourd'hui. Et c'est ça qui me permet, qui nous permet, n'est-ce pas, de nous approcher. Mais nous devons passer par ce voile déchiré. Nous devons passer, il nous est dit ici, que le voile c'est la chair ou le corps de Christ. Nous devons, pour aller vers Dieu, nous approcher de Dieu, et vous savez que le côté du voile qui était du côté du lieu très saint était face continuellement à la présence de Dieu. Mais nous devons passer par ce voile déchiré. Ça a deux sens. Ça veut dire que pour pouvoir s'approcher de Dieu, il faut passer par la croix. Combien de gens essayent de rentrer dans les milieux chrétiens ou ont une expérience de vie qui n'est pas passée par la croix? Ils sont passés par une expérience avec Dieu extraordinaire, peut-être. Ils ont vécu des choses extraordinaires dans une église ou dans un contexte chrétien. Ils ont eu des sensations, et j'allais dire des sensations chimiques. Et c'est ça qu'ils pensent être l'expérience avec Dieu. La rencontre avec Dieu, l'expérience dont l'Évangile parle avec Dieu, c'est une rencontre qui passe par la croix. Qu'est-ce que ça veut dire passer par la croix? Ça veut dire de dire « je sais que je suis misérable, que je suis pécheur et j'ai besoin d'être pardonné. J'ai besoin et si je ne suis pas pardonné, je ne peux plus vivre parce que mon péché est insupportable, parce que ma condition était insupportable. Et je sais que la mort de Jésus sur la croix est venue pour abolir le péché. Et je voudrais que dans ma vie, il y ait cette abolition probablement progressive du péché dans ma vie, pour que je puisse marcher et être à la place de ce voile, dans ce voile, pouvoir contempler la présence de Dieu, mais tout en restant dans ce voile déchiré. C'est ça que ce verset semble indiquer, que nous avons une voie qui passe par ce voile et qui nous amène jusqu'au jour où nous allons être vraiment dans la présence de Dieu. Alors si nous sommes dans ce voile, nous sommes dans le corps de Christ, et je pense que c'est pour ça que l'Église est appelée, l'Église avec un grand E, pas l'Église évangélique d'Hasbrook, pas l'Église, les Églises évangéliques, pas les Églises protestantes, pas les Églises catholiques, l'Église avec un grand E, que Dieu seul connaît, qui est constituée de celles et ceux qui ont fait cette rencontre avec Jésus-Christ, avec Dieu. Eh bien, c'est pour ça, je pense, que l'Église est appelée le corps de Christ. Le corps de Christ, ce voile déchiré, où nous pouvons nous tenir maintenant. Et lorsque Jésus a présenté le pain, il a dit « Si vous mangez de ma chair, alors vous demeurerez en moi et je demeurerai en vous. Vous demeurerez dans ce voile et vous serez partie de ce voile qui est l'Église, qui contemple la présence de Dieu, le lieu très saint. » Mais s'il nous est dit que l'Église constitue le corps de Christ, il nous est dit que Christ est la tête. Et si un corps vit, n'est-ce pas, et l'Église est vivante, parce que Jésus est vivant, parce que Jésus est ressuscité, eh bien, si un corps vit, eh bien, il y a le sang qui circule. Et dans l'Ancien Testament, le sang était le symbole de la vie, n'est-ce pas? Les Israélites ne pouvaient pas manger, ils ne peuvent toujours pas manger de sang, parce que ça représentait la vie. Eh bien, si nous sommes le corps de Christ, chacun individuellement, mais aussi en tant que communauté, eh bien, c'est le sang de Christ qui circule dans nos vies. C'est le sang de Christ qui nous anime et qui nous fait vivre. C'est aussi simple que cela. Et je pense que lorsque Jésus présentait la coupe à ses disciples et disait « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance », et ici il est question dans Hébreu de cette alliance, eh bien c'est parce que il voulait aussi dire cela, pas seulement la purification des péchés, mais aussi la vie, c'est-à-dire le sang de Jésus-Christ qui d'une manière spirituelle traverse nos vies. Ça paraît mystérieux de dire ça. Mais on va essayer de le comprendre ce que ça veut dire que le sang de Jésus-Christ qui traverse nos vies, et qui expliquerait pourquoi dans la première épître de Jean, la question de la purification des péchés concerne ceux qui marchent dans la lumière. C'est ceux qui sont dans la lumière de la présence de Dieu qui peuvent avoir ce sang qui circule dans leur vie spirituellement. Alors pour comprendre ou essayer de proposer une explication à cela, je veux prendre le symbole que Jésus a donné à ses disciples. Il a pris du vin ou du jus de raisin. Il leur a dit « Ceci est mon sang ». Or, certainement, je ne vais pas vous apprendre grand-chose en disant que le vin ou le jus de raisin, c'est la pression du fruit de la vigne, n'est-ce pas ? C'est la pression du raisin vers l'extérieur. C'est l'expression du raisin. Donc le fruit de la vigne, c'est l'expression du raisin. C'est le fait que le fruit s'exprime, n'est-ce pas ? Et ce fruit qui s'exprime au travers de nos corps, au travers de nos vies, je pense que c'est ça, le sang de Jésus-Christ qui circule, n'est-ce pas ? Quel est le fruit que Dieu veut que nous portions ? Quel est le fruit qui doit s'exprimer au travers de nous ? Bien, c'est le fruit de l'Esprit. Vous avez deux passages que vous devez lire en parallèle. Vous avez Jean 15, n'est-ce pas ? Qui est « Je suis le cep, vous êtes les sarments », qui concerne la vigne. Un schéma, un modèle très simple qui nous permet de comprendre cette relation extraordinaire qui existe entre Dieu le Père, entre Jésus-Christ et entre ceux qui sont à Jésus-Christ et qui aboutit par le raisin. Et le raisin, c'est extraordinaire, n'est-ce pas, le raisin ? Parce que dans le raisin, vous savez, il contient le cep dedans. Si vous plantez des raisins, des pépins de raisins, il n'y a qu'en Angleterre où on trouve des raisins qui n'ont pas de pépins, mais c'est trafiqué. Nos enfants qui n'aiment pas les raisins, les pépins de raisins, ils aiment bien aller acheter des raisins en Angleterre parce qu'il n'y a pas de pépins dedans. Mais dans le pépin, si vous mettez le pépin dans la terre, eh bien, il y aura des cèpes qui vont naître. Il y a dans le raisin la nature même du cep. Il y a la nature même de Jésus, mais le raisin est porté par le cep. Ce mystère dans la nature, c'est aussi un mystère spirituel, n'est-ce pas ? Et ce que Jésus veut, c'est que nous puissions porter du fruit. Et ça, c'est seulement si nous marchons dans la lumière que nous pouvons porter du fruit. Et ce fruit doit s'exprimer, n'est-ce pas ? L'impression, c'est presser à l'intérieur sur une feuille de papier, presser quelque chose et ça imprime. Mais exprimer, c'est faire sortir par pression. Combien nous aimerions voir des prières qui sont des expressions, n'est-ce pas ? Des choses qui sont dites sous la pression. Il y a quelque chose qui me presse à l'intérieur, qui me fait louer le Seigneur. Ça doit être ça. Et on le connaît si peu, je le connais si peu, ça. Le fruit de l'Esprit manifesté, ça doit être l'expression. Ça ne doit pas chercher à montrer quelque chose. Ce n'est pas de l'ordre du comportement. On nous apprend depuis notre enfance qu'il faut dire bonjour, qu'il faut dire merci, qu'il faut faire tout un tas de comportements sociaux. Et quelques-uns essayent d'appliquer le fruit de l'Esprit comme ça, en disant « il faut que je sois joyeux, il faut que je puisse aimer ». Il faut que je me force à avoir la paix. Et ils ne sont pas en paix parce qu'ils essayent toujours d'avoir la paix, n'est-ce pas ? Et donc, ça, c'est le meilleur moyen de ne pas être en paix. Le fruit de l'Esprit doit s'exprimer. Et cette expression du fruit de l'Esprit, ça donne le jus de raisin. Ça donne l'expression du raisin, ça donne le jus de raisin. Et dans ce monde, combien nous avons besoin que le fruit de l'Esprit s'exprime. Mais qui peut exprimer ça, sinon ceux qui sont du cep, qui sont des sarments, qui ont porté du fruit, n'est-ce pas ? Relisez Galates 5, 22. Demandez au Seigneur que ce miracle de porter du fruit se produise. et que ça s'exprime. Et l'expression sera le symbole du fait, le témoignage que le sang de Jésus-Christ vous purifie de tout péché. Que le sang de Jésus-Christ circule dans votre vie spirituelle, que vous êtes animé par la vie de Jésus-Christ. Et cette vie de Jésus-Christ est si complète. Il est le chemin, on a lu, de cette route nouvelle. Mais son sang nous donne la vie, nous permet de vivre, d'être animé. Le sang qui circule dans une vie, c'est ça, dans un corps, c'est ça qui permet qu'il soit animé. Et il est la vérité, n'est-ce pas? La vérité en grec se dit l'absence d'oubli. Il est complet, il est la plénitude. Il est la plénitude de Dieu en nous. Il est le sang de Jésus qui circule dans notre corps spirituel, dans l'Église, dans ceux et celles et ceux qui sont vraiment le Seigneur. Eh bien, ça donne la plénitude de Dieu. Il n'y a pas d'oubli, il n'y a pas de manque. C'est complet, n'est-ce pas, l'expérience. Et c'est ça qui peut être symbolisé par le vin, par le jus de raisin. C'est ça, quand on prend la Sainte-Seine, on témoigne, en fait, en prenant, que nous avons le sang de Jésus qui coule dans nos vies. Ce n'est pas le vin ou le jus de raisin qui devient le sang de Jésus. C'est étonnant. Alors que Jésus a montré très clairement aux pharisiens, et il a démontré par sa mort sur la croix, que le fait de prendre ce genre de parole au premier degré est une erreur. Quand il a dit « démolissez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours », tout le monde, ou les pharisiens et probablement les disciples, croyaient qu'il parlait du temple, mais il parlait de son corps. Quand Jésus dit « ceci est mon corps », en présentant le pain, lorsqu'il dit « ceci est mon sang », il ne parle pas de son corps physique, ni de son sang physique. En disant que le pain là, c'est son corps, ou en disant que le jus de raisin, c'est le sang. Mais il fait référence à ce que ça représente sur le plan spirituel, que sa mort sur la croix représentait pour l'humanité. C'est donc cette dimension que nous devons chercher. Combien de fois on entend les témoignages en disant « j'ai été lavé, j'ai été purifié, j'ai été pardonné de mes péchés, donc maintenant je suis sauvé ». C'est vrai seulement si il y a le sang de Jésus qui continuellement nous traverse et nous lave et nous purifie. Et ceci est possible que si nous sommes dans la lumière, si nous marchons dans la lumière et en communion les uns avec les autres. C'est seulement ça qui nous permet d'être traversés par ce sang, d'avoir la vie. Vous savez que lorsque le sang était offert dans l'Ancien Testament, le problème était l'oubli. C'est que la personne pouvait être la plus sincère possible. Il y en a qui le faisaient par tradition. Mais il y en a qui le faisaient le plus sincèrement possible, qui rentraient chez eux en disant « je suis pardonné. Ma dette est effacée, mon péché est effacé. » Mais le problème, c'est que les jours suivants, ils commençaient à oublier cette joie du pardon. Et Jésus a dit « je suis la vérité, aletheia en grec. C'est-à-dire, je suis l'absence d'oubli. C'est-à-dire que l'œuvre de Jésus est permanente. Quand il a dit à la Samaritaine que si tu bois de cette eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Il disait en d'autres termes, si tu bois de moi, tu n'oublieras jamais. C'est quelque chose d'éternel, il n'y aura plus d'oubli. Quand il a dit, vous connaîtrez la vérité, vous reconnaîtrez aletheia, la vérité vous affranchira. Eh bien, c'est vous connaîtrez cette absence d'oubli, une expérience perpétuelle, une expérience éternelle qui ne finira jamais, qui se renouvelle en permanence. Donc le sang de Jésus-Christ n'est pas un acte qui vient nous purifier comme les enfants d'Israël mettaient selon l'ordre de Dieu, mettaient sur les linteaux de leur maison le sang. Parce que ce sang est appelé à être oublié. Si la pluie vient, le sang est effacé, il n'y a plus de trace, sauf un souvenir, une trace dans la mémoire, peut-être vague, avec plein d'oubli. Mais le sang de Jésus, ça n'est, l'évangile, pardon, ce n'est pas simplement le sang de Jésus qui est mis sur les linteaux de notre vie. C'est l'expérience de l'absence d'oubli, parce que c'est renouvelé éternellement. C'est ça qu'on doit chercher. C'est ça qu'on doit désirer de tout cœur. Alors en préparant, en réfléchissant sur ce message, j'ai été amené aussi à considérer ce qui s'est passé à un moment donné dans l'Ancien Testament. Parce que Jésus a présenté, et on présente traditionnellement le jus de raisin dans une coupe, et ça rappelle un épisode de l'Ancien Testament qu'on trouve dans Daniel chapitre 5, où Belshazzar, le roi de Babylone, est allé chercher lors d'un festin les coupes qu'ils avaient volées, qu'ils avaient pris en prenant le peuple d'Israël en captivité, ils avaient pris à Jérusalem, du temple, les coupes d'or. Et alors qu'il était en train de faire un banquet, alors qu'il était en train de se divertir, de rendre gloire à ses dieux et ses déesses, eh bien, il a demandé qu'on amène ses coupes d'or pour qu'il puisse boire son vin dedans. Mais il y a là un avertissement très sérieux. Vous le lirez dans Daniel chapitre 5. C'est qu'il a voulu mettre du vin qui n'était pas celui qui était destiné pour ses coupes. Il a voulu le mettre dans ses coupes-là. L'apôtre Paul nous avertit clairement dans 1 Corinthiens 10 que nous ne devons pas être en communion avec Dieu et en communion avec les démons. Et peut-être ce matin, il y a des gens ici qui ont l'impression que les coupes d'or du temple de Dieu ont été prises en captivité et sont utilisées pour un autre vin que celui qui vient de Dieu. C'est-à-dire que les coupes d'or du temple de Dieu étaient censées recueillir le fruit de l'Esprit. Et recueille un autre type de vin, un autre type de fruit qui est le fruit des démons. Et c'est quoi une coupe? C'est quoi un récipient? C'est quoi une coupe? Eh bien, c'est ce dans quoi doit être déversé l'expression du fruit de l'esprit, le jus de raisin, le vin. Et on pense, où j'ai pensé naturellement à nos paroles, à nos yeux, à nos regards, à ce qu'on écoute, qui sont ces coupes qui sont destinées à une seule utilisation, c'est à recevoir l'expression du fruit de l'esprit. Nos pensées sont la même chose, sont des coupes en or que Dieu nous a données. Et qu'avons-nous fait de ces coupes en or? Qu'en est-il de ce qui sort de notre bouche? Qu'en est-il de ce qu'il y a dans nos pensées? Qu'en est-il de ce qu'il y a dans nos comportements? Est-ce que c'est le réceptacle? Est-ce que c'est le récipient dans lequel se déverse le fruit de l'esprit? Ou est-ce que c'est un autre vin qui coule dans ces coupes? Et peut-être ce matin, on a l'impression que ça a été pris en captivité. Que le roi de Babylone a pris ces choses et l'a amené pour mettre un autre vin. Vous le savez, si vos paroles ne sont pas celles de l'Esprit. Vous le savez, si vos pensées ne sont pas celles de l'Esprit de Dieu. Vous savez, si vos gestes ne sont pas ceux de l'Esprit de Dieu. Et c'est peut-être parce que vous avez connu cette tragique expérience de la captivité et que ces ustensiles ont été pris en captivité. Mais ce qui est arrivé à Belshazzar, c'est qu'alors qu'il s'enivrait et que le festin avait cours et tout se passait selon ses désirs, eh bien il y a une main qui a écrit sur le mur « Peser, compter, peser et trouver léger ». Et c'est ça qui est le verdict de Dieu. Si nous utilisons les coupes, et c'est clairement, selon moi, en tout cas dans Daniel 5, associé au fait qu'il soit allé chercher les coupes pour aller s'enivrer dans un festin. Si nous utilisons les choses que Dieu nous a données pour y recevoir le fruit d'un autre esprit que l'Esprit de Dieu, eh bien le verdict est écrit sur les murs de notre vie, compté, pesé, trouvé léger. Et si c'est ce matin le sentiment que nous avons, il y a la possibilité de revenir au Seigneur. Il y a la possibilité de demander au Seigneur, « Seigneur, je veux que tout ce qui est de l'ordre des coupes, que mes pensées, mes paroles, mes gestes, mes regards, ce que j'écoute, tout cela ne soit que pour recevoir l'expression du fruit de l'Esprit. Ce soit que pour la joie, la paix, l'amour, la patience, la bonté, la fidélité, la maîtrise de soi, tout ce qui, la bienveillance, tout ce qui est de l'ordre du fruit de l'Esprit. Et si vous demandez, si on demande ce matin réellement cela à Dieu, eh bien Dieu va faire son œuvre dans nos vies. Il va ramener ses coupes pour leur utilisation, celles qu'il avait prévues. Peut-être on a le sentiment que ce matin, il n'y a pas l'expression du fruit de l'Esprit. Alors il nous faut marcher dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière. Il nous faut marcher en communion mutuellement les uns vers les autres, pour pouvoir porter du fruit, et pour que ce fruit puisse s'exprimer et être le breuvage, n'est-ce pas, non seulement pour Christ, parce qu'il a dit « je boirai », il a dit à ses disciples « je ne boirai plus du fruit de la vigne avec vous, jusqu'à ce que je le boive nouveau dans le royaume des cieux avec vous ». Et je ne sais pas si ce fruit de la vigne qu'il boira, c'est l'expression du fruit de l'Esprit. Mais j'aime le croire que c'est ça, que c'est ça que Jésus veut boire. C'est ça que le monde a besoin. C'est de pouvoir avoir des gens qui expriment le fruit de l'Esprit. Alors que Dieu nous aide, que Dieu fasse cette œuvre en nous, et c'est ça qui va nous transformer nous-mêmes. Et qui va transformer les autres autour de nous. Amen.